Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Un plaisir de vous retrouver pour vous parler des grands événements qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, avec des témoins directs et indirects, des historiens, des professeurs d'université et des politiques. Nous vous plongeons et vous faisons découvrir les grands faits et les acteurs qui ont marqué notre histoire. Et pour aujourd'hui, il sera question dans cette émission du conflit qui a opposé le peuple Luba au peuple Lulua, à Lulua-Bourg, au Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï central. La prise de son est assurée par Héritier Sidia Kala, reportage Chris Moukong, au micro Kéline Kouté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Un jour, une histoire.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo, découvrez les personnages et acteurs de notre histoire, ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kéline Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa, en rediffusion le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
En 1959, année des élections au Conseil de législation de la province. Rappelons ici que ces élections furent organisées partout au Congo. Elles étaient une réponse à la montée nationaliste dans tout le pays, selon plusieurs historiens. Il faudrait dire que suite à l'esprit revendicatif dans le Kasaï, les Belges avaient mis au point une bonne stratégie pour affaiblir les Congolais, divisés pour mieux régner. C'est ainsi qu'il fut répondu les bruits du Muluba Lubilanji qui est venu dominer le Muluba Lulua. Le Muluba Lubilanji occupe les grandes et belles maisons du Kananga. Il faut le chasser et prendre ainsi sa maison. C'est le Muluba Lubilanji qui est commis clerc ou agent comptable du blanc. Pour plusieurs sources que nous avons contactées, tout s'est réparti de là. Mais avant de parler de l'origine de ce conflit, le professeur Alexis Mikaye, que nous recevons dans ce studio, professeur et doyen de la faculté de sciences de la communication à l'Institut des sciences de l'information et de la communication IFACI-COSIGL, nous présente ces deux peuples, Luba et Lulua.
En fait, les deux peuples qu'on appelle Lulua et Luba, ils proviennent tous de l'empire Luba. Cet empire, ce grand empire qui a vu le jour aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Katanga, et précisément Sangalubango Kamina. Et cet empire s'est disloqué à cause de problèmes internes. Et c'est ce qui a fait que tous ces enfants se sont dispersés. Les uns ont émigré vers le Kasaï, c'est ce qu'on appelle les Baluba. Et puis les Baluba là, qui viennent du Grand Katanga, du Grand Empire, se scindent aussi au Kasaï en deux. Certains vont aller vers, aujourd'hui, la rivière Lulua. Ils habitent le long de la rivière Lulua et ils portent ce nom-là de la rivière Lulua. Et donc, ce sont en fait Luba, Lulua, c'est un même peuple qui provient de l'Empire Luba.
Les Lulua, on les retrouve au Kasaï occidental, Kasaï central aujourd'hui.
Kasaï central aujourd'hui.
Et les Luba au Kasaï oriental.
Oriental, voilà.
Luba et Lulua étaient un même peuple, comme vous le dites, professeur Mikaï, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du conflit?
L'origine, je situe ça dans ce que j'appelle la gouvernementalité de la violence, qui commence avec l'esclavagisme, 16e, 19e siècle. Vous savez très bien que les Européens sont venus en Afrique et ils ont pris beaucoup d'Africains en esclavage. Et plus tard, vers le 19e siècle, chez nous au Congo, nous avons les Belges qui entrent et qui essayent, sous le motif officiel, de mettre fin à cet esclavage. Et nous avons au Kassai, Ngongolo Tepe, Panyamutombo, qui faisait des ravages, des razzias. Et c'est ce qui a entraîné l'émigration de certains Luba vers le Kassai occidental aujourd'hui. Et ils vont donc aller sur les terres de ce qu'on appelait les Lulua, fuyant les razzias esclavagistes. Et au Kassai, le long de la rivière Lulua, ils sont reçus par leur frère, Lulua. Mais là, ils avaient un statut inférieur. Ils étaient même considérés un peu comme esclaves, étant au service de Lulua. Mais lorsque les Belges viennent s'installer pendant la colonisation, ils commencent le travail de la colonisation, ils essayent de recruter la main-d'œuvre du côté des Lulua. Le chef Kalamba n'accepte pas.
Pourquoi ?
Craignant que les Belges prennent ces sujets comme des esclaves. Alors les Belges vont s'appuyer sur les Luba, qui vont devenir des maçons, des ouvriers, etc. Et qui plus tard vont occuper une position d'autorité, de domination dans l'administration coloniale. Et c'est eux qui ont les belles maisons à Lulabou.
C'est eux qui vont à l'école.
Qui vont à l'école, qui occupent de grands postes. Et les Lulua se sentent bien là frustrés. Ils ont même fait beaucoup de réclamations aux Belges pour qu'ils puissent réparer cela. Et cela a dégénéré plus tard, comme on le verra.
Mais pourquoi les Belges n'ont pas réussi à convaincre le chef Kalamba pour qu'il laisse les Lulua travailler avec eux?
Ben, les Belges s'appuyaient sur ce qui était ouvert à leur entreprise coloniale. Ils ont laissé les chefs tranquilles, mais ils se sont appuyés sur les Luba, qu'ils trouvaient très ouverts à la civilisation occidentale belge, et ils se sont appuyés sur eux. Et ils ont fait étudier leurs enfants dans les missions catholiques. Ils les ont formés dans les différents métiers, et voilà, ils étaient devenus des auxiliaires de Belges. Un peu comme dirait Ngalula plus tard, que c'est un peu le complexe du bouchon, c'est-à-dire le loup a été utilisé pour asseoir le pouvoir des autres.
Et cette situation a créé des frustrations au sein de la communauté.
Oui, plus tard, parce que les Lulua, les originaires, les propriétaires du sol, constatent que à Lulabou, je vous donne l'exemple, à Lulabou, vous avez dans la ville 50% de Baluba, 25% de Lulua. Vous voyez, c'est presque le double. Les étrangers sont envahissants dans la ville et cela commence à poser des problèmes aux autochtones.
Selon plusieurs documents historiques, professeur, on dit que c'est en 1959 que la situation a dégénéré.
Ah, effectivement, en 1959, la situation dégénère parce que vous voyez, nous sommes déjà dans la mouvance de la quête de l'indépendance. Et vous avez, du point de vue politique, des partis qui s'organisent, le MNC par exemple, où vous retrouvez Kalonji, et MNC Lumumba, qui vous retrouvez Kalonji. Et ces partis-là cherchent à ce que les Belges donnent l'indépendance au Congo. Mais entre-temps, les Belges trouvent que les Baluba sur lesquels ils s'étaient appuyés sont plus mordants, ils sont indépendantistes. Alors que faire maintenant? Ils ont appliqué la devise de diviser pour régner. Il faut diviser les Lulua contre les Baluba. Alors ils ont dit aux Lulua, voilà. Ces gens, regardez bien, dans la ville, c'est eux qui vous dominent. Donc, il faut les chasser. Alors, en 1959, le chef Kalamba Mangole de Benalulua va donner l'ordre à ce que tous les Baluba cèdent leur propriété foncière aux originaires. Donc, ils doivent céder leur maison, etc. Et ceux qui refusent, cette requête doivent rentrer chez eux au sud Kassai. Et là, nous sommes en 1959. Voilà comment les choses vont commencer à dégénérer.
Alors qu'ils ont refusé, j'imagine, de rentrer chez eux lorsqu'on leur a demandé ça.
Ah, naturellement, vous voyez, on est toujours accroché à ses biens, surtout à une maison, et ils ne voyaient pas comment ils pouvaient abandonner tout d'un coup leur habitation pour rentrer chez eux. Cela a dégénéré.
Alors, professeur Mbikaye, qui étaient les acteurs principaux dans ce conflit Louba-Louloua?
J'ai cité le chef, le grand chef Kalamba, Mangolais, qui était le chef de Louloua. Il y a aussi, du côté de Louba, vous avez Albert Kalonji Ditunga, et puis Ngalula Pandangila. C'est Ngalula Pandangila. Pandangila signifie celui qui trace le chemin. Ce sont des bulldozers qui ouvrent le chemin vers le retour au pays natal. Et donc ce sont les grands acteurs de l'époque, ceux qui sont au centre de ces événements.
Pas les Belges. On dit que c'est eux qui étaient à la base, justement.
Ici, je parle d'abord des Congolais. Mais au fond de la question, je vous l'ai dit, ce sont des Belges qui ont appliqué la politique de diviser pour régner. Parce que les Belges n'acceptaient pas que les Congolais aient l'indépendance. Or, ils ont constaté que du côté des Louba, il y avait beaucoup plus de gens, des leaders, qui défendaient cette idée-là. Alors, pour diviser les Loulous et les Loubas, ils ont incité ces conflits-là, ils ont suscité à ce que les Loulous puissent chasser les Loubas. Donc, le pouvoir colonial s'appuie sur une ethnie pour malmener une autre qui s'oppose à sa présence. Et l'ethnie Loulous, à l'époque, en 59, donc, est incité à chasser les Loubas du Kasaï oriental.
Avec Jean Kabemba Bukasa, historien de l'ISP Mujimaï, nous revenons sur les grands moments qui ont milité en faveur de l'exode du peuple Mouluba, contraint de quitter Louloubourg pour regagner Bakwanga, actuelle ville de Mujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Jean Kabemba est au micro de Chris Mukonde.
Qu'est-ce qui s'était passé? Vers les années 60, les Baluba étaient tellement aimés par les colonisateurs ou soit les administrateurs belges. Pourquoi? Parce que les Baluba avaient le courage d'affronter n'importe quel travail, n'importe quelle activité. Ils étaient tellement unis. Eux ne craignaient pas l'homme blanc. Ils les considéraient comme père, comme mère. Mais comprenez ce qui s'était passé. Avant 1960, il y avait déjà des tractations de gauche à droite dans notre pays. Et l'homme blanc, le belge, avait déjà remarqué que les Mouloubas, qui me connaissent déjà à travers toutes les facettes, ils risquent de soulever les Benalouloas qui sont originaires de la ville de Louloubourg.
Actuel Kananga.
C'est l'homme blanc, c'est l'administrateur blanc, à savoir belge, qui a inculqué une très mauvaise mentalité aux Louloubas pour leur dire « Tirez beaucoup d'attention, cette terre risque de vous être ravie par les Baloubas. » L'homme blanc a donné même des exemples très frappants sur la vie des Mouloubas. Il a dit aux Louloubas « Regardez dans des hôpitaux. » Les grands infirmiers sont des Baloubas. Dans des écoles, les enseignants les plus renommés sont des Baloubas. Allez plus loin, le chef de quartier, le chef de collectivité sont toujours des Baloubas. Et entre-temps, vous vous dormez, vous allez toujours en brousse à la recherche des kaolins pour vous imbiber. Parce que c'était là donc le système de Louloubas. Pour faire peur à l'homme blanc, il se rendait à côté de rivières, de ruisseaux, pour récupérer une masse de terre dénommée Lupemba. Lupemba, là, qu'on appelle également le kaolin, il s'imbibait au niveau de leur visage. Et quand l'homme blanc regardait les Louloubas, il voyait que les Louloubas sont des êtres faibles, qui se donnent corps et âme à des futurités. Et l'homme blanc pensait que c'était un être qui l'effrayait, c'est-à-dire le Louloubas effrayait l'homme blanc en tout et pour tout. Et raison pour laquelle le Louloubas, suite au conseil lui prodigué par l'homme blanc, le Louloubas s'est soulevé. Ils ont demandé aux Baloubas de pouvoir prendre leur sacoche, de prendre leur bien et quitter la ville de Louloubourg, appelée aujourd'hui Kananga. Mais tout cela n'était pas facile. Les Baloubas se sont opposés à la mesure prise par nos frères Louloubas. Mais comme les Louloubas étaient soutenus par l'homme blanc, les Baloubas étaient devenus faibles. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup ont été tués.
Une autre source renseigne qu'en plus de toutes ces frustrations, un événement aux conséquences incalculables se produisit. Un sujet belge avec ses domestiques autochtones, Luba Lubilangi, surprit un notable Luluwa de notoriété publique à la campagne. Il s'agit de Modeste Kembalak Mudimbi. Sous la conduite de ce Belge, Modeste Kembala fut assassiné dans des conditions très ignobles. Le lendemain de ce forfait, les Belges répandirent le bruit selon lequel le Baluba de Kalonji avait tué Modeste Kembala. Cet assassinat fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ainsi donc, les mariages contractés, les amitiés, les origines communes furent oubliées et les enfants utérins du Kasaï s'entretuèrent.
Magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo, découvrez les personnages et acteurs de notre histoire ainsi que leurs rôles. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kéline Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa, en rediffusion le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
Voyant que la situation devenait de plus en plus mauvaise, Kalonji Ditunga et Ngalula demandèrent au Luba Lubilangi de rentrer chez eux. À cette époque, l'actuelle ville de Mujimai n'était qu'une bourgade, Bakwanga. Jean Kebemba nous en parle.
Kalonji Mulopwe, Ngalula Mpandangela, Ode David, ce sont des grands leaders. Luba, qui vivait sur les sols, Luluwa, ont décidé de prendre leurs bagages, pas seulement eux trois, et leur propre frère Luba pour venir dans l'actuelle ville de Mbujimai. Je peux aussi citer un Luba qui avait aussi lutté pour que leur frère vienne ici. Il s'agit de Ode David, il s'agit de Mukenge, de Kazadi, l'actuel hôpital cancellé, c'est un hôpital d'un grand monsieur, donc un homme politique, je dirais aussi un leader. Monsieur Kazadi, tous ces leaders, Luba, ont demandé à leur frère, allons chez nous. Nous ne pouvons pas donc mourir ici. Même si nous n'avons rien, il est question que nous partions chez nous. Mais en dehors de ces leaders, il y avait aussi un prêtre catholique, Monseigneur Nkongolo Wangoye, connu sous le prénom de Joseph. Lui était à Luebo. Il a sensibilisé aussi ses frères Luba de pouvoir prendre leurs bagages et retourner sur la terre, sur les sols de leurs ancêtres. C'est la ville de Mbujimai que vous connaissez aujourd'hui et d'autres coins de l'actuelle province du Kasaï oriental.
Apparemment, ce n'était pas un mouvement spontané, il y avait quand même une organisation, parce que, quelque part, on parle de mouvement ou l'association socioculturelle Luluwa Frère. On parle également du mouvement de solidarité, je crois, pour le peuple Luba.
Tout à fait. Vous savez, les Luluwa frères constituaient une classe des évolués. Et ces évolués-là avaient déjà remarqué que les Baluba sont en train de progresser, sont en train d'aller de l'avant. Parce que les Baluba construisaient de belles maisons à Luluabourg, occupaient de hautes fonctions à Luluabourg. Oui, c'était une classe sociale supérieure, une classe des intellectuels qui avait jugé bon de refouler, de chasser le Baluba de leurs terres. Mais du côté aussi de Baluba, il y avait une très bonne organisation. Les Baloubas s'entraidaient de gauche à droite, mais parce qu'ils étaient sur un sol qu'eux considéraient comme étant le leur. Alors ils ont été secoués, quelle que soit leur organisation. Mais si les Lulois, frères, étaient déjà organisés, cette organisation venait donc des idées qui leur ont été données par l'homme blanc, à savoir le colonisateur. Parce que le colonisateur ne voulait pas accorder l'indépendance aux Congolais. C'est pourquoi il a cherché à avoir une mainmise sur certains esprits des lettrés loulois.
Témoin de ce conflit, Zidobe Manaï avait environ 7 ans à l'époque du conflit Louba-Louloua qui a abouti au refoulement des Balouba de Louloua-Bourg vers Bakwanga, aujourd'hui Mbujimaï. Il livre son témoignage au micro de Chris Mokonde.
Quand le colonisateur est arrivé, il s'est rendu compte que le mouvement, les Moulouba, était un peuple éveillé et qu'il ne fallait pas les laisser diriger. C'est ainsi qu'en 1960, quand nous avons eu l'indépendance, et comme les Moulouba étaient déjà de ce côté-là, à Tchikafa, à Louloua-Bourg, et qu'ils étaient peut-être à un nombre suffisant, et qu'ils occupaient des postes, je crois que les colonisateurs, qui a vu ça comme un danger contre sa suprématie, a dû allumer le feu pour qu'on renvoie les Moulouba. Ils ont peut-être utilisé le premier ministre de l'époque qui a trouvé que Kalonji, qui était aussi de ce côté-là avec les Moulouba, il devenait un peu des envahisseurs et que, bon, aidé aussi par le fait que nous, quand nous avons réussi, nous devons nous faire remarquer partout. Je crois qu'on a agi sur cet esprit-là pour dire, écoutez, il faut que ces Moulouba ici rentrent chez eux. C'est ainsi que le Moulouba a été chassé de Louloua-Bourg pour entrer à Bakwa.
Alors quand vous parlez, quand vous dites chassé, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé calmement, il n'a pas été demandé en toute tranquillité au Moulouba de plier bagages.
Non. Ça ne s'est pas passé tranquillement. Le Moulouba a été forcé et qu'à un certain moment, Monseigneur Kongoli, qui était évêque à Louebo, je crois, je crois qu'il s'est rendu compte que ça y en avait trop. Et parfois même il a résisté, mais ce sont les prêtres qui sont allés lui dire, écoutez, quand vous résistez là, vous risquez de perdre votre vie. C'est ainsi qu'il s'est décidé de partir de là où il était comme évêque. Et dans sa gibecière, il y avait des prêtres, il y avait des religieuses. Ils sont revenus à Bakwang. Ils ont dit, allons chez nous. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Nous devons aller vivre chez nous. Peut-être que nous serons à l'aise là-bas. Les Moulouba étaient forcés. Les Moulouba ne quittent pas un lieu comme ça facilement. Surtout qu'il s'est investi, qu'il a construit, qu'il a des œuvres. Il ne peut pas quitter comme ça facilement.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo, découvrez les personnages et acteurs de notre histoire, ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kérin Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa, en rediffusion le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, un jour, l'histoire de ce jour vous replonge dans le conflit qui a opposé les Louba aux Louloua à Louloua-Bourg au Kasaï central. Ce conflit va durer plus ou moins 2 ans. Mais une fois le forfait commis et l'apaisement revenu, les deux ailes Louba se rendirent vite compte de la manipulation dont elles furent victimes de la part des Belges. Les notables ainsi que les chefs coutumiers du Kasaï décidèrent rapidement de s'asseoir autour d'une table, de mettre la paix dans les cases, de s'étendre la main et se tourner vers le futur. Professeur Mikaï.
Après qu'on ait eu l'indépendance, Kalonja, avec son état autonome du Sud Kasaï, les choses ont évolué. Il y a eu beaucoup de conférences qui se sont succédées pour d'abord établir l'unité du pays. Il y a la conférence de Tananarive, la conférence de Coquillatville, finalement le conclave de l'Ovanium, ici à Kinshasa, aujourd'hui Kinshasa. L'Ovanium, c'est l'université de Kinshasa. Et là, on a réuni tous les politiciens pour qu'ils, après la crise, après la mort de Lumumba, pour qu'ils puissent former un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement a été dirigé par Cyril Adula. Et on a essayé donc de remettre tout le monde ensemble, tout ce qui était dans les sécessions. Et même, on a essayé de résoudre ces problèmes ethniques qui se sont posés en formant ce gouvernement d'union nationale. Là, nous sommes en août 1961.
Au niveau du Kasaï même, il n'y a pas eu de réunion. J'ai lu quelque part, je crois, dans un ouvrage ou sur Internet, on disait que les deux peuples se sont retrouvés et ont signé un pacte qu'on a appelé le pacte d'Entenda.
Oui, en fait, ce sont des chefs qui se sont réunis, des chefs coutumiers, pour enterrer la hache de guerre. Vous dire, écoutez, nous sommes des frères, nous avons le même sang, il ne faut pas que cela revienne encore. Et donc, il y a eu donc ce que vous dites là, mais il y a eu aussi à Munkamba. Munkamba, c'est le lac, le grand lac, qui fait juste frontière entre les deux provinces, les deux anciennes provinces, Kasaï occidental et Kasaï oriental, pour qu'on puisse trouver un compromis et enterrer tous ces conflits-là. Ethnique.
En signant des pactes.
En signant des pactes. Bon, généralement, ce genre de pactes, c'est un peu mystique. Il y a des pactes où on enterre un personnage, une femme qu'on enterre pour dire, voilà, c'est cette femme qu'on enterre, c'est pour mettre fin à ce genre de conflits, qu'on n'y revienne jamais.
Professeur Mikaï, je rappelle que vous êtes professeur et doyen de la faculté des sciences de la communication à l'Institut de sciences de l'information et de la communication et FACIC en sigle. Quelles leçons tirées de ce conflit, professeur?
Que les gens dépassent la culture paroissiale, c'est-à-dire la culture qui est fondée sur le village. Il faut que les gens voient la nation. La nation, ça veut dire cet ensemble d'ethnies, de tribus, mais qui ont vécu une histoire telle que celle que nous racontons ici, et qui ont la volonté de vivre ensemble. Et lorsqu'on veut vivre ensemble, on dépasse certaines choses qui peuvent vous diviser. Et c'est ce qu'il faut. Il faut créer ce sentiment national, travailler sur ça, de manière à ce que les gens ne soient pas divisés par les politiciens pour des intérêts égoïstes. Parce qu'en fin de compte, ils sont tous africains, ils ont le même sang. Dans le cas ici de Luba, Lulua, nous l'avons dit, c'est un même peuple. Mais qu'on arrive à diviser à certains moments pour des intérêts très précis.
L'historien Jean Kabemba, quant à lui, estime que ce conflit n'a pas favorisé le développement des deux provinces, c'est-à-dire celles du Kasaï oriental et Kasaï central.
Il y a eu beaucoup d'incidents, mais il y a quelque chose qui reste jusqu'à ce jour. Gravé sur la mémoire des Baluba, qui jusqu'à ce jour regrettent de leurs biens qu'ils avaient perdus, de leurs maisons abandonnées. Et si vous voyez bien, ni était le refoulement des Baluba. Les deux peuples pouvaient aller de l'avant, pouvaient développer facilement la ville de Lualaba, Luebo, Chikapa. Le fait d'être divisé aujourd'hui, les deux provinces, Kasaï central et Kasaï oriental, ont des difficultés énormes. Pourquoi? Parce que s'ils étaient ensemble, ils pouvaient développer leur coin.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Un jour, une histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous parlions du conflit qui a opposé le peuple Luba au peuple Lulua, à Luluabourg, au Kasaï occidental, actuel Kasaï central, entre 1959 et 1960. Merci à Héritier Sidi Akala qui est à la prise de son. Reportage Chris Moukand, au micro Kélin Kouté. Retrouvez ce magazine sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.